Vous écoutez Des campagnes en mouvement, cinquième saison du podcast sur les ruralités, imaginé et réalisé par les étudiants du master journalisme de l'université Bourgogne-Europe. Cette saison documente des isolements fabriqués par des politiques publiques qui mettent en mouvement par la contrainte. Prendre la voiture plutôt que le train parce que la petite ligne est fermée ou que le TGV traverse sans s'arrêter. Devoir aller au bistrot et à la boulangerie du village d'à côté. Monter à bord d'un van pour parler santé psychique et violence sexuelle dans des milieux où tout le monde se connaît. Apprendre à se servir d'un smartphone pour accéder à ses droits. Elle rend compte aussi de mouvements nés de trajectoires individuelles. Des néo-ruraux, parfois néerlandais, toujours CSP+, qui s'installent et recomposent des territoires. Des mouvements qui parfois invitent à une nostalgie du temps d'avant, tout aussi fabriquée. Dans une boîte de nuit, on esquisse le portrait d'une jeunesse rurale qui danse sur des années 80 un peu fantasmées, bien aidée par ses aînés qui entretiennent la flamme d'un passé idéalisé. Le mouvement, les remous, c'est aussi un vote RN qui s'assume et des amitiés qui perdurent malgré tout, en se parlant, ou plutôt en faisant ensemble. Ce sont toutes ces facettes du mouvement dans les campagnes de Côte d'Or en Bourgogne-Franche-Comté que les étudiantes et étudiants ont choisi de partager. Bonne écoute.
Il y a un truc qui dit la France aux Français. Va me trouver maintenant des Français de pure souche.
Des Français de France ?
Des Français de France.
Parce c'est que quoi c'est, d'ailleurs, ouais, de, c'est quoi pour de, toi tout, un Français ?
C'est une personne habitant en France. Je peux me considérer comme française puisque j'habite en France. C'est pas un titre, hein, c'est pas une. Mais limite, maintenant, c'est vrai que ça fait quand même. Je suis plus française que portugaise. Je parle beaucoup mieux français que le portugais. J'ai vécu 5 ans au Portugal, j'en ai vécu 50 en France. J'ai eu affaire à des racistes, oui. Mais bah, je leur ai tourné le dos et puis c'est tout. Ils ont parlé à mon derrière. Une personne qui est raciste. Tu peux pas la changer. Moi, je te dis, avant les Marseillais, je suis sûre que même des employeurs à moi votent RN. Mais je m'en fous. Je suis là de façon légale. Je travaille comme tout le monde. J'ai pas ce que j'ai. Je travaille pour l'avoir. Et voilà.
Entre deux champs, deuxième épisode. Anna Maria à Avant les Marseillais, par Julie Lopez. Mon village, je l'ai quitté il y a bientôt 5 ans maintenant. J'habite à Dijon aujourd'hui, mais pendant les 18 premières années de ma vie, c'est dans l'Aube, à Avant les Marseillais, que je vivais. L'école était au bout de la rue, le premier magasin à 10 km, et quand je suis entrée au lycée, je faisais quasiment une heure de bus, matin et soir. Là-bas, j'y ai laissé ma mère. Elle s'appelle Anna, elle a 55 ans et elle est portugaise. Elle habite en France depuis 50 ans, dans une campagne qui vote désormais majoritairement pour le RN. Aux dernières législatives, c'était même 70% des votants, pour une abstention qui ne dépasse pas celle de la moyenne nationale. Et ça, quand j'ai développé une conscience politique, ça m'a tout de suite dérangée. Surtout pour ma mère.
On va faire ça maintenant.
Ah, je suis pas prête.
Bah c'est une discussion. C'est une discussion. C'est pas parce qu'il y a un micro que ça change quoi que ce soit. Vas-y, fais une phrase.
Demain, le soleil se lèvera à 8h15 et se couchera à 17h45.
Ok, c'est bon.
Sans bégayer.
Dis aux gens comment tu t'appelles. Tout. Ce que tu fais. Quitter, quoi. Moi, je te connais.
Anna Maria Lopez, assistante maternelle à Avant les Marseillais, un petit village à côté de Nogent, sur Seine, dans l'Aube. 515 habitants.
Et tu viens d'où, à la base, toi ?
Je suis originaire du Portugal. Mmh. Vraiment un petit trou perdu dans les montagnes. Je suis arrivée en mars 1975 et j'ai eu 5 ans en avril 1975. Je me souviens par bribes. J'ai vécu quasiment les 2 premières années de ma vie rien qu'avec ma mère parce que mon père était parti faire son service militaire en Angola. Quand il est revenu du service militaire, il était bûcheron.
Et c'était où ça, du coup, en France?
Beaucouleurs, à côté de Commercy, dans la Meuse. Donc, quand je suis lui, il est venu en premier. Et après, avec mamie, on est venu le rejoindre. On est arrivé en train. Et oui, je suis rentrée à l'école à Vaucouleurs. Je ne comprenais pas un traître mot. Et quand j'ai commencé à comprendre qu'on me demandait mon prénom, étant donné qu'au Portugal, on m'appelait Anita, et ben j'ai dit Anita. Et j'ai fait toute ma scolarité sous Anita. Et tu vois, j'ai vécu le racisme envers les Portugais. Enfin, le racisme.
Pourquoi t'appelles pas ça du racisme? Enfin, parce que du coup, à chaque fois, c'est comme si tu pouvais le mettre entre guillemets.
J'ai eu affaire au racisme, mais un racisme choisi. C'était pas flagrant, c'était pas ouvert. Encore aujourd'hui, dans le village, tout le monde vote FN.
RN maintenant, du coup.
Oui, RN maintenant. Mais les gens, ils te font des grands sourires, ils discutent avec toi et...
Est-ce qu'il y en a qui ouvertement parlent du fait de voter RN dans le village?
Non.
Même des gens que toi, tu côtoies
Je n'ai jamais demandé, je ne cherche pas à savoir pour qui ils votent. Mon ex-belle-mère était bien ouvertement raciste. Et elle ne se cachait pas de voter Jean-Marie Le Pen.
Mais tu l'as vécu comment, toi?
Je disais rien. J'évitais le conflit, parce que de toute façon, j'ai toujours évité les conflits au niveau du racisme. Parce que les gens, ils ont leur opinion, et que t'auras beau leur prouver que c'est à l'époque qu'on a été chercher, c'est pas papy qui est venu, c'est qu'on a été le chercher, et pour eux, t'es quand même un étranger.
Beaucoup finissent par rester définitivement. Leur histoire, c'est celle d'un passage progressif de l'ombre à l'intégration. Pourtant, cette intégration reste mitigée. Ils sont nombreux, visibles, mais pas souvent étudiés, souvent considérés comme discrets, presque invisibles dans la société française. Ma mère, je l'entends pas souvent parler de politique. Le seul truc qu'elle dit, c'est « les Français en ont marre ». C'est une phrase simple, qu'on entend assez souvent. Mais ce qui me marque dans sa façon de la prononcer, c'est qu'elle ne s'inclut pas dans ce groupe, les Français.
Je ne suis plus portugaise au Portugal et je ne suis pas française en France. Je ne serai jamais, même si je prends la nationalité française, pour certaines personnes en France, je ne serai jamais française.
Mais comment on te le fait sentir?
En me disant, t'as pas pris la nationalité. Ou, t'es portugaise, ou tu vas y retourner au Portugal? Moi, je ne cache pas mes origines. Je me sens aussi bien française qu'un Français, puisque de toute façon, je paye mes taxes, je vis comme un Français, je paye mes factures à l'État français. La seule chose que la nationalité française pourrait m'apporter, c'est le droit de vote.
Et tu n'as pas cette envie justement de participer quand tu vois que dans tout le village ça vote RN?
Non, parce que ça ne changerait pas, étant donné que de toute façon c'est la majorité du village.
T'as pas la flemme du coup de continuer à être sympa?
Étant donné que les gens sont sympas aussi dans le village, on ne parle pas politique. Si, pour critiquer la politique de Macron, des trucs comme ça, mais sinon, j'ai jamais entendu dire « moi j'ai voté ». Non, tu sais qu'il y a une majorité de RN, mais tu sais pas quelle est la majorité, parce que du coup, tu ne sais pas... Il y a des gens qui me font des grands sourires, qui me font des grandes discussions, que je suis sûre, sont votent pour le RN. Je suppose que Natacha aussi.
Ah ouais?
Ouais.
Ça te ferait pas bizarre de savoir qu'elle vote RN?
Natacha, c'est une des amies les plus proches de ma mère. Je suis venue beaucoup de fois chez elle quand j'étais petite. Des fois, elle me gardait les mercredis, quand ma mère travaillait encore à l'usine. Je l'aime bien, Natacha. Et entendre qu'elle vote peut-être RN, ça me fait un peu bizarre. Au fond, je crois que ma mère aussi. Je profite du fait qu'elle se rende boire un café chez elle pour comprendre leur discussion. Quand on arrive, son fils, Grégoire, est là aussi. Il est revenu de Paris pour lui rendre visite.
Je te demande pas si ça va.
C'est au tata.
Ouais, il est prêt pour le marathon demain. Combien de temps d'arrêt?
Éternellement, je travaille plus. 6 semaines à peu près. Enfin, c'est pas du temps d'arrêt, hein. Je suis freelance et je reprends.
Ouais, aujourd'hui.
Tu peux intervenir aussi si tu veux, après tout, avoir l'opinion d'un jeune.
Parle pas trop politique, toutes les deux.
Bah, pas avec toi, mais si, nous on en parle régulièrement quand même. Hein. Et Grégoire, il aime bien savoir les tenants et les aboutissants. Il va chercher le fond du truc. Et après, il se fait son opinion seulement.
Donc, même ici, avec les gens.
Oui, on débat beaucoup, hein. On débat beaucoup ici. Bah, et puis, en plus, on n'a pas les mêmes idées, donc il y a ça aussi. Nous, on est du monde rural, vous, en ville, vous êtes quand même un petit peu plus de gauche que nous. Hein, que nous, en campagne, on est quand même un peu plus de droite. Mais d'un autre côté, je dis toujours, hein, on ne vit pas les mêmes choses.
C'est-à-dire
nous, on n'a quand même pas vécu de la même manière avec les étrangers. Vous, vous êtes quand même plus ouverts au pays. Je parle de ma génération. Nous, ça s'arrêtait aux Polonais, aux Espagnols et aux Portugais qui venaient pour travailler. Et aujourd'hui, c'est quand même des gens qui risquent leur vie, qui vivent dans des conditions indignes, qu'on ne sait pas accueillir, qu'on laisse quand même venir, mais qui viennent pour sauver leur peau. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais d'un autre côté, de la manière dont on les fait vivre, c'est complètement ignoble. Il arrive un moment, il faudrait certainement plus réguler et donner du travail à tout le monde, comme nous, ce qu'on a connu. Si on accueillait des gens, c'est parce qu'on pouvait les accueillir aussi sur notre territoire et les faire vivre dignement et correctement.
Mais du coup, ça, vous en parlez entre vous deux, des fois, à toi et maman, ou pas ?
Non, pas forcément.
Non, parce que quand.
Bah, si, après, parce que tu me dis que pourquoi tes parents. Tu m'as déjà dit pourquoi tes parents ils étaient venus. Ouais. Tes parents ils étaient venus pour du travail et puis quelque part une vie meilleure. Bah, une vie moins dure.
Mes parents, on a été les chercher pour qu'ils viennent.
Voilà. Mais à côté de ça, c'est pas des exilés politiques non plus.
Non.
Il y avait des métiers bien désignés. Hein, les Polonais sont arrivés pour l'agricole. Les Portugais, les Espagnols sont arrivés pour tout ce qui était bâtiment, parce que déjà il y avait tout à reconstruire. Hein, on était quand même pas si loin de la fin de guerre. Hein, et puis, puis il y avait une explosion aussi de natalité. Et puis c'était les années les plus riches aussi. Là pour moi c'est de la réussite. Que aujourd'hui on n'en est plus là. Donc quelque part, faut toujours accueillir toute la misère du monde. Moi, je veux bien, mais qu'on en adopte un chacun et puis qu'on le fasse vivre dignement.
Et toi, maman, t'es d'accord avec ça ?
On peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est ça le truc, c'est que...
On n'a plus les moyens.
On n'a plus les moyens.
En les écoutant, je réalise que leur conversation fait exactement écho aux travaux d'Inès Espirito Santo. Le migrant portugais devient une figure presque idéale, courageux, discret, fiable. Et dans le bâtiment, surtout, ils sont souvent recherchés. Et cette réputation devient une fierté collective. Le travail, c'est ce qui leur a permis de gagner leur place, leur dignité, leur légitimité. Dire « nous les Portugais, on est des travailleurs », c'est certes une manière de raconter leur réussite, mais c'est aussi une manière de se distinguer d'autres groupes immigrés plus stigmatisés. Et ce n'est pas que le regard des Français qui a construit cette identité. Ce sont aussi les Portugais eux-mêmes. Parfois, cette disposition les amène même à avoir ce que la sociologue a appelé une vision très culturaliste, pour ne pas dire raciste, sur les abus sociaux. Plus si étonnant que ma mère ne soit pas totalement en désaccord avec les idées de Natacha.
Est-ce qu'il y a une raison pour le fait que tu en parles avec certaines personnes et pas avec d'autres ?
Bah parce que y a des gens avec qui on est plus proche et on n'a pas forcément ces sujets-là. Hein, on parle plutôt de vous. et par contre, on a des connaissances avec qui on parle plus de généralité et puis des actualités. Mais après, on n'a pas forcément non plus des opinions contraires hein, pour certaines choses. Hein. On n'est pas toujours non plus aux opposés. Hein. Il y a quand même une réalité qui est là.
Mais pour moi, leurs conversations sont bien plus politiques qu'elles ne le réalisent. Elles sont peut-être apartisanes, mais apolitiques, sûrement pas. Je les entends parler du risque de fermeture de l'école de la commune, du prix du gasoil qui augmente sans cesse, ou même de leur galère à avoir un rendez-vous chez le médecin. Et ça se sent. Pour moi, elles sont révoltées au-delà de la simple discussion entre deux amis. Tout est politique. Et revient alors ce fameux ras-le-bol.
Moi, je vois la France se tourner complètement à droite. Hein. Mais parce que...
Les gens en ont marre.
Pas parce que les gens croient plus en rien. De toute façon, celui qui bosse, il bosse pour payer pour tout le monde. Alors moi, la solidarité, je veux bien, mais enfin, il arrive un moment, on est quand même étranglé de partout, partout, partout. La fonction publique n'a jamais coûté aussi cher. Moi, j'ai un CDI de la fonction publique parce qu'on ne voulait plus de fonctionnaires. Hein, bah oui, mais de toute façon, nos postes, ils existent et puis il y a des réels besoins.
Mais tu ne penses pas qu'un virage droite-extrême droite, ça empirerait pas la situation ?
Bah aujourd'hui, j'ai envie de te dire que c'est les seuls qui sont pas venus au pouvoir. Donc est-ce qu'il faut pas quelque chose de plus extrême ? Je sais pas. Je pense que ça tourne à droite, mais pas pour les bonnes raisons, quoi. Je pense que c'est par dépit aujourd'hui. Ouais. Bon, il y a encore 5-6 ans, moi, je trouve que ça, quand même,
ça a commencé vraiment à se dégrader il y a une dizaine d'années.
On se posait pas ces questions-là.
Je suis d'accord, mais moi ça me choque que quand tu parles de tous ces problèmes économiques qui sont des faits, ça te dirige vers l'extrême droite. Moi je trouve qu'il n'y a absolument pas de programme économique. Pour moi c'est beaucoup de paroles en l'air, et derrière c'est les faits, et c'est d'ailleurs ça qui est beaucoup plus important que n'importe quel discours d'un politique, c'est qu'est-ce qui vote derrière. Quand j'écoute des économistes ou quoi, en fait moi je trouve ça assez dingue qu'on s'estime plus intelligent que la majorité, mais l'écrasante majorité scientifique et économiste, qui vont, je dirais même pas aiguiller sur ce qu'il faut voter, mais sur ce qu'il ne faut pas voter. Et moi je trouve ça dingue que les gens tombent dans le panneau. Parce qu'encore une fois, les gens sont basés sur des croyances et ne vérifient pas derrière. Les gens ne prennent plus la peine de vérifier, parce qu'avant, la télé était encore un média de confiance, ça ne l'est plus aujourd'hui, ils sont tous privatisés. Privatisés par qui ? Bah, tu regardes que c'est les grands de ce monde, et ils ont des intérêts à avoir un électorat de tel ou tel parti, évidemment. Et on en reste sur le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Mais sur les faits aujourd'hui et sur ce qui ne va pas, les gens sont d'accord. Ça réunit les gens. On l'a vu avec les gilets jaunes, hein, il y avait tout, hein, dans les gilets jaunes. Et moi, je trouve ça assez dingue, tout simplement, mais qu'on ne fasse plus confiance à la science aujourd'hui.
Mais d'un autre côté aussi, quand tu dis les grosses fortunes essayent de gérer le monde, mais d'un autre côté, on en a besoin aussi.
C'est une vision capitaliste de la chose.
Certainement, je suis certainement plus capitaliste que toi.
Oui, certainement.
Ils te promettent tous monts et merveilles quand ils sont pas au gouvernement.
Pour eux.
Mais ils sont tous pour eux. Ici, j'ai l'impression que on a perdu. Tu vas à Marigny, il y a un café, j'ai l'impression de le voir tout le temps fermé.
Et c'est morose, tu vois personne, c'est bizarre quand même.
Mais on est devenu individualiste.
Ouais.
Mais on ne va plus vers les autres.
On nous a poussé à le devenir. Ou est-ce qu'on l'est devenu de nous-mêmes ?
Ici, Marigny, tu vois personne. Romilly, tu vois personne. Mais à Dijon, tu vois tout le temps du monde dans les rues. C'est une ville touristique, c'est vrai. Mais à la campagne, tu n'as plus ça. Les gens ils ne se rassemblent plus. Ils restent chez eux, ils ne bougent plus de chez eux.
Qu'est-ce qui a tué tous ces petits commerces, du coup ?
Le manque d'argent. Parce que quand tu vas payer un café 2,50€ alors que tu peux le faire chez toi...
Tu parles pour la clientèle ou tu parles pour les propriétaires ? Le manque d'argent.
Les deux.
Finalement, j'ai pas l'impression que ce soit si dur de créer un espace pour parler de politique. Peut-être qu'il suffit de laisser l'échange se faire. Mais je note quand même que ma mère, elle est restée plus souvent silencieuse, sans vraiment exprimer de désaccord frontal. Je sens qu'il y a une différence. Et ce n'est pas qu'on parle pas de politique à Avant les Marcilles dans ma campagne. Mais que tout le monde ne peut peut-être pas en parler aussi ouvertement. Ma mère, elle a des choses à dire. Mais peut-être pas dans cet environnement. Pour les Français, comme elle dit, elle reste portugaise, travailleuse, sans histoire, discrète.
Elle t'a plus un magasin de fringues nulle part. À Romilly, il y avait énormément de magasins de fringues.
Fermé les uns après les autres.
Ils ont tous fermé, pas parce que pourquoi ? Parce que les gens, ils ont rangé et leurs habitudes. Donc au départ, c'était Amazon, et puis maintenant, c'est Shine. Hein. Donc ouais. c'est du chinois, c'est du jetable, c'est du qui vaut rien, mais on s'en fout.
Les gens, ce qu'ils voient, c'est que
mais,
bah, c'est pas cher.
C'est pas cher.
C'est pas cher.
C'était Anna Maria à Avant les Marseillais. Deuxième épisode de la mini-série documentaire Entre deux champs par Léo Thierry et Julie Lopez. Merci à Anna, Natacha et Grégoire pour leur participation que vous pouvez retrouver sur le site paplard.fr. Accompagnement par Jérôme Berthaud, Clémence Alezard et Benoît Coquard.